7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La question du jour, est-ce un nouvel espoir pour venir à bout de la pandémie? Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé pour la fin de l'année l'arrivée de traitements antiviraux les qualifiant de nouvelles armes dans la lutte contre le Covid. De quel traitement s'agit-il? Bonjour Vincent Maréchal.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université et la question rituelle, tout d'abord, avez-vous des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques?
Non, aucun.
Alors cela ayant été dit, lors de son allocution mardi soir, le président de la République a évoqué des traitements antiviraux. De quoi s'agit-il?
Alors en fait, on est en train de parler d'antiviraux finalement qui sont ceux qu'on attend depuis très longtemps, c'est-à-dire des antiviraux faciles à prendre. Hein, donc ce sont des antiviraux qui seraient prescrits sous forme orale, sous forme de gélules. Et ce sont donc des molécules qui vont devoir agir sur la phase le début de la maladie, qui est la phase dans laquelle le virus se multiplie de façon active. Je vous rappelle qu'en fait, cette maladie se décompose en deux. Une partie dans laquelle c'est la réplication du virus qui pose problème, et une deuxième dans laquelle malheureusement c'est la réponse immunitaire du patient qui se dégrade et qui conduit à ces formes grave. Donc on donne ça au tout début de la maladie.
Alors on donne ça au tout début de la maladie et ensuite que constate-t-on, Vincent Maréchal?
Alors les études auxquelles on a accès sont des études qui ont été annoncées par voie de presse. On ne dispose pas encore d'articles scientifiques. Hein. Il y a donc deux molécules. La première produite par Merck s'appelle le Monulpiravir. C'est une molécule qui va permettre de réduire d'environ 50% le risque d'hospitalisation et de décès chez des personnes à risque. La molécule de Pfizer dont on a annoncé les résultats d'essais cliniques quelques jours après. Donc elle s'appelle le Paxlovid, c'est une combinaison de deux molécules, un antiviral et une molécule qui aide à faciliter la persistance de cette molécule dans le sang des malades. Et celle-ci permettrait de réduire le risque d'hospitalisation et de décès de près de 90%. Donc deux molécules tout à fait intéressantes, mais qu'il s'agit pour l'instant surtout de prescrire à des gens qui ne peuvent pas bénéficier du vaccin et qui sont à risque surtout d'évoluer vers des formes graves.
Oui, mais alors c'est embêtant parce que, comme vous l'avez évoqué au départ, Vincent Maréchal, il s'agit de les prescrire et donc de les administrer vraiment au début de la contamination. Si on ne s'en rend pas compte, est-ce que cela signifie qu'une administration postérieure aurait beaucoup moins d'effet?
Alors oui, en tout cas, on suppose que plus on le fait tôt, plus l'efficacité sera importante. Mmh. Donc aujourd'hui, on est sur des essais qui ont ciblé des phases qui sont de 3 à 5 jours après l'apparition des signes cliniques. Donc première chose, effectivement, il faut qu'il y ait des signes cliniques qui sont des signes d'alerte. Deuxième chose, et ça peut être sans doute une limite dans un certain nombre de pays, il va falloir être en mesure de confirmer par des tests qu'on a l'habitude maintenant de rencontrer, il va falloir confirmer l'infection avant de mettre en place le traitement.
Pourquoi ?
Ah bah tout simplement parce que les signes cliniques de la Covid-19 sont assez peu spécifiques et qu'il faut éviter de donner ce type de molécule à des gens qui sont infectés par d'autres germes ou qui ont d'autres raisons de tousser ou d'avoir de la fièvre. Donc il faut confirmer l'infection par le virus responsable de la Covid-19 pour pouvoir donner un traitement antiviral qui soit pertinent.
Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être dangereux d'administrer ces médicaments à quelqu'un qui n'aurait pas le Covid-19 ou bien s'agit-il tout simplement d'une mesure d'économie? Peut-être aussi, il faut en parler, Vincent Maréchal, parce que ces traitements sont onéreux.
Alors il y a plusieurs dimensions là. La première dimension, vous l'évoquez, hein, c'est que même si les essais qui ont été réalisés semblent montrer que les effets secondaires ne sont pas plus importants que ceux du placebo, les essais sont réalisés sur des petites cohortes, on n'a pas encore une vision en dimension réelle des effets secondaires possibles. Et ça, on a l'habitude maintenant de se méfier de ces premiers résultats. Donc il faut être vigilant, les dossiers sont entre les mains des agences sanitaires, il va falloir les documenter davantage. Par ailleurs, ces molécules ne sont pas forcément sans effet. La première, la molécule de chez Merck, modifier le métabolisme du virus. Donc ce sont des molécules qui agissent à l'intérieur de la cellule et dans le cas présent, qui induisent une hypermutation du génome viral qui le rend ineffectif. Il y a quand même une certaine surveillance à avoir sur les effets que pourraient avoir ces molécules sur les cellules. Dans le cas de la molécule de Pfizer, on sait que le ritonavir, qui est une molécule qu'on met pour faciliter l'activité de l'antiviral, peut être incompatible avec un certain nombre de traitements. Donc, vous voyez que l'utilisation doit être raisonnée. Par ailleurs, on n'a pas encore les résultats dans toutes les composantes de la société, dépendant de l'âge, de l'ethnicité également. On sait que certains traitements vont mieux marcher sur certaines populations que sur d'autres. Donc c'est un grand espoir, mais il faut documenter. Alors quant au coût, effectivement, c'est une question importante.
Hein. Bien sûr.
Des universitaires évaluent environ à $18 le prix de production de la molécule et les coûts qui circulent aux États-Unis, en tout cas les informations que j'ai pu récupérer, parlent d'un traitement à $700. Donc Pfizer va gagner de l'argent, le Merck probablement aussi, et on me parle de contrats avec des pays à faible revenu pour effectivement réduire la diffusion de ces traitements. Mais je pense qu'il est vraiment très important de rappeler que ces traitements, en l'état actuel, seront probablement réservés à des personnes à risque de faire des formes graves et qu'elles ne sont en aucun cas, et ça c'est très important, un substitut à la vaccination. C'est un outil complémentaire dans la lutte contre le virus.
Bon, mais alors, malgré tout, est-ce que l'on peut imaginer qu'avec ces antiviraux, on verra le bout du tunnel enfin, Vincent Maréchal? Est-ce que on peut aussi imaginer que ces antiviraux vont demeurer efficaces, même si de nouveaux variants apparaissent? Parce que ça aussi, c'est un risque que l'on court.
Alors, beaucoup de questions derrière ces deux questions. La première, effectivement, c'est que le bout du tunnel, maintenant, on en est convaincu, passera sans doute par une combinaison d'approches et de stratégies. La vaccination, on l'a rappelé également, tout simplement le retour des gestes barrières. Donc, elle va contribuer probablement à améliorer les choses. Le fait que la prise soit orale va faciliter également l'administration. On avait des traitements antiviraux, notamment à base d'anticorps monoclonaux pour des gens très immunodéprimés. Ces traitements-là se font nécessairement à l'hôpital. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On va être dans une prise facilitée, mais il va y avoir effectivement un problème d'accès. Pour ce qui est de la résistance que vous évoquez, de la résistance potentielle aux antiviraux, c'est toujours une possibilité quand on a affaire à des antiviraux. Ça serait sans doute moins important dans le cas de la molécule de Merck, mais c'est une possibilité, bien évidemment, a fortiori si on utilise mal cette molécule ou qu'on l'utilise trop. Ça, on connaît bien cette problématique. Il va y avoir un problème de distribution également. Il va falloir s'assurer qu'on ait les capacités de production, d'approvisionnement, et surtout que cette molécule ou ces molécules soient mises à disposition de l'ensemble des pays qui vont en avoir besoin.
Et donc, la dernière question, parce que c'est quand même là aussi une question que l'on se pose, Vincent Maréchal, lorsque l'on prend ce type d'épidémie, est-ce que vous avez le souvenir, est-ce qu'il existe une pandémie sur laquelle on a eu le dessus grâce à un antiviral? Parce que on n'arrêtait pas d'expliquer auparavant qu'un antiviral... Voilà, je vous laisse développer.
Sur la pandémie elle-même, non, malheureusement, mais enfin, on peut quand même rappeler le succès des combinaisons d'antirétroviraux dans le contrôle de l'infection VIH. Aujourd'hui, les gens qui sont traités et qui sont affectés par le VIH ont une vie quasiment normale grâce à ces traitements qui sont des véritables révolutions. On peut aussi citer, dans le cas de l'hépatite C, l'arrivée de nouveaux médicaments qui ont totalement révolutionné la prise en charge des patients infectés par l'hépatite C. On n'a pas été, en revanche, en mesure d'éradiquer un virus grâce à des approches antivirales. Le seul virus humain qu'on a éradiqué, c'est le virus de la variole, et on l'a en grande partie éradiqué dans les années 80, notamment grâce à un programme de vaccination qui a pris des dizaines d'années.
Bon, alors qu'est-ce que l'on dit, verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'on peut imaginer vivre avec le
Covid?
Je vous laisse conclure.
On peut parler d'une excellente nouvelle. Pardon, je suis désolé. Non, on peut parler d'une excellente nouvelle qui nécessite, comme à chaque fois, une certaine vigilance. Donc, évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir d'augmenter cette trousse à outils. On va rester vigilant sur les effets d'annonce. Il y a des enjeux financiers qui sont importants derrière. On s'en doute bien. Et le rôle des scientifiques et des médecins maintenant va être de trouver le cadre d'utilisation et d'exercer une certaine vigilance, comme on le fait systématiquement quand on a ce type de molécule. Mais évidemment, un espoir très important pour la suite.
Merci beaucoup, Vincent Maréchal. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université et directeur du groupe d'intérêt scientifique OBEPIN, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées.